RFJ Info.
Le journal d'Émilie Momentaler.
Bonsoir. Octroyer des privilèges dans la vie quotidienne aux personnes qui ont été vaccinées contre le Covid-19, c'est un scénario possible, mais cela comporte des risques. Il faudra faire des pesées d'intérêts pour respecter les droits fondamentaux des autres. La fermeture d'une classe fait débat à Montfaucon. Un ancien maire est monté au créneau par le biais d'un tout-ménage. Il demande que la fermeture se fasse dans un autre village du cercle scolaire. L'assemblée communale n'est toutefois pas compétente pour en décider. La ragoûte Berami poursuit sur sa lancée. La skieuse tessinoise a remporté la descente de Coupe du Monde à Val di Fassa. Elle prend du même coup la tête du classement général de la Coupe du Monde. Météo, des averses sont prévues pour ce soir et cette nuit. La bise va se lever et refroidir l'atmosphère. Demain, le ciel sera couvert en matinée avant de faire place à un temps bien ensoleillé. Cette tendance se poursuivra dimanche. Une société à deux vitesses où les personnes vaccinées contre le Covid-19 auraient des privilèges dont le reste de la population serait privé. Ce scénario est possible et semble se profiler, y compris en Suisse. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, l'a rappelé mercredi. Les entreprises sont libres d'édicter des règles restreignant l'accès à leurs services. Cette perspective pourrait motiver certains sceptiques à franchir le pas et à rejoindre les files d'attente en vue d'obtenir leur dose. Mais cela comporte également certains risques et des pesées d'intérêts seront inévitables si le système s'impose. C'est ce qu'estime Samia Hurst, professeure d'éthique médicale à l'Université de Genève.
Le problème, c'est si les choses qu'on me fait miroiter si je suis vaccinée sont en fait des choses auxquelles je devrais avoir droit de toute manière. Alors, il y en a pour lesquelles c'est simple. Hein. Imaginez-vous juste un instant, c'est presque impensable, hein, mais imaginez-vous qu'on réserve l'accès au bureau de vote aux personnes vaccinées. On voit très bien pourquoi ça ne marche pas. Mais imaginons-nous qu'on réserve l'accès au magasin d'alimentation. Alors ça, on voit aussi pourquoi ça ne marche pas, mais la différence entre le premier exemple et le deuxième, c'est que le premier serait illégal en Suisse, le deuxième, ce n'est pas si clair, parce que les magasins d'alimentation sont des acteurs privés et que les acteurs privés ont le droit, au fond, de gérer qui a accès ou non.
Si de telles mesures étaient prises, elles ne devraient toutefois pas durer, selon Samia Hurst. Une fois que toutes les personnes qui le souhaitent auront été vaccinées, les barrières pourraient être levées et les personnes qui refusent le vaccin seraient alors renvoyées à leurs responsabilités individuelles. Il ne faut pas multiplier les ouvertures trop rapidement. C'est l'avis émis aujourd'hui par la Task Force scientifique de la Confédération. Elle rappelle que les assouplissements en Grande-Bretagne ont conduit à une forte augmentation des cas. Son président, Martin Ackermann, insiste sur l'importance de disposer d'un intervalle de 4 semaines entre chaque train de mesures d'assouplissement. De son côté, Virginie Masseret, la chef du contrôle des infections de l'OFSP, a déclaré devant la presse que la situation épidémiologique est plutôt bonne dans son ensemble, bien qu'encore fragile. La progression des variants reste préoccupante. Ils représentent désormais 60% des échantillons positifs. Et la Suisse a justement enregistré 1065 nouvelles contaminations en 24 heures, un chiffre en baisse. À cela s'ajoutent 8 décès supplémentaires en lien avec la maladie. Le canton du Jura a pour sa part recensé 9 cas supplémentaires. 9 personnes sont hospitalisées, dont 2 aux soins intensifs. L'économie jurassienne peut-elle profiter de l'accord de libre-échange avec l'Indonésie? Plusieurs parties de la région en doutent. Un comité composé du PS, des Verts, du CSPOP et du PEV milite en tout cas contre le texte soumis aux Suisses le 7 mars. Ses membres ont présenté leurs arguments ce matin à la presse. Ils estiment notamment que l'accord n'offre pas suffisamment de garanties de durabilité. L'argument économique ne convainc pas non plus, comme l'explique la conseillère aux États socialistes Elisabeth Baumschneider.
Personne n'a pu indiquer à quel point les flux financiers seraient favorables à des entreprises jurassiennes ou à des entreprises suisses et qui plus est à des PME plutôt qu'à des grandes entreprises qui sont plutôt actives sur les marchés internationaux. Ensuite, je crois que ce serait aussi une bonne nouvelle pour l'agriculture jurassienne, pour toute l'industrie de la transformation en Suisse, que de soutenir les productions locales. Donc c'est vraiment une question un peu de choix de société et d'équilibre. Peut-être aussi qu'au niveau environnemental, on est bien sûr conscient que des échanges doivent être maintenus, mais systématiquement imaginer qu'il faut les intensifier a également un bilan carbone, un bilan écologique négatif.
La Chambre de commerce et d'industrie du Jura soutient, elle, l'accord de libre-échange avec l'Indonésie. Son directeur estime qu'il serait bénéfique à l'économie jurassienne, Pierre Alabéré.
La Suisse est un petit pays et elle a donc un petit marché intérieur et en fait elle doit sa prospérité à son ouverture qu'elle a pratiquée depuis des dizaines d'années. Et d'ailleurs on est bien placé dans le Jura pour le savoir puisqu'ici on produit en particulier des montres ou des parties de montres qui sont exportées à raison de 95% de la production. Donc on voit bien que se fermer alors qu'on est un des cantons les plus exportateurs de Suisse, c'est vraiment la plus mauvaise des idées.
On entend comme argument que finalement, ce n'est pas forcément les PME, les petites entreprises qui vont profiter de cet accord de libre-échange, mais plutôt les grosses sociétés. Qu'est-ce que vous répondiez à ça ?
Alors c'est faux, hein. Il y a une étude récente qui a été publiée par l'Université de Saint-Gall et le SECO qui démontre précisément que les accords de libre-échange sont favorables en particulier aux PME. Et en parlant de PME, on connaît ici à la Chambre de commerce des cas de PME jurassiennes qui sont prêtes à prospecter le marché indonésien si cet accord de libre-échange vient à être accepté. Ça veut dire que ça va leur ouvrir des perspectives, ça va leur permettre de développer leurs affaires, de maintenir des emplois et un savoir-faire ici. Et donc, en période de crise comme celle que l'on vit aujourd'hui, nous pensons qu'il est important d'offrir ce genre de perspective à nos entreprises.
Un dossier réalisé par Alexandre Rosset, et les Suisses auront le dernier mot dans les urnes le 7 mars. Et Montfaucon pourrait connaître une soirée animée lundi. Les citoyens seront informés en assemblée communale de la fermeture d'une classe dans le village par manque d'élèves dans le cercle scolaire primaire Franche-Montagne-Est. L'ancien maire Claude Schafter a réagi par la distribution d'une lettre en tout ménage. Il estime d'une part que la fermeture devrait se faire dans une autre localité puisque Montfaucon a dépensé plus de 5 millions de francs pour la rénovation de l'école et la construction d'une halle de gymnastique. Il déplore d'autre part le fait que la fermeture n'a pas été décidé par le corps électoral. Mais du côté des autorités communales, le son de cloche est différent. Votre éclairage, Raphaël Chalvera.
Rappelons tout d'abord que le cercle scolaire Franche-Montagne-Est comprend Montfaucon avec trois classes, puis Le Bémont, Saint-Bray et Les Enfers avec chacun une classe. Le nombre d'élèves étant désormais insuffisant pour maintenir le statu quo, une fermeture doit être entreprise pour la rentrée d'août. Et pour assurer la pérennité du cercle scolaire, les autorités compétentes ont décidé de la faire à Montfaucon, ce qui permet aux autres villages de conserver leur classe. Il faut être crédible dans notre collaboration et faire preuve de solidarité pour que chaque commune ait des élèves, explique la conseillère communale Pierrette Aubry. Si nous arrivons à redynamiser nos villages, il y aura des réouvertures, ajoute-t-elle. Voilà pour la décision de fermeture qui fera l'objet d'une information à l'Assemblée communale de Montfaucon lundi soir.
Et cette décision est justement contestée par l'ancien maire Raphaël.
Oui, Claude Schafter fait référence au statut du cercle scolaire pour affirmer que l'Assemblée communale a son mot à dire. Faux, répliquent les autorités locales. Le canton a modifié l'article relatif au lieu d'enseignement et au nombre de classes. En clair, l'Assemblée n'est pas compétente pour décider de l'ouverture ou de la fermeture de classes. Elle ne peut que s'exprimer sur les statuts du cercle. Autre aspect, le cercle scolaire Franche-Montagne-Est fait actuellement partie d'un projet pilote mis en œuvre par le canton. Projet qui donne compétence à la direction d'entente avec les enseignants, la commission d'école et les exécutifs communaux de décider des ouvertures et des fermetures de classes. Les assemblées communales ne sont pas dans le pipeline. Réaction de Claude Schafter, on enfume les gens, on verra bien ce que va dire la loi.
Et l'ancien maire milite aussi pour que ce ne soit pas à Montfaucon qu'une classe passe à la trappe.
Oui, on l'a dit, Montfaucon a rénové son école et construit une halle de gymnastique flambant neuve pour 5,1 millions de francs. Pour Claude Schafter, fermer une classe dans le village se fait au détriment de ceux qui ont payé la facture et qui payent encore aujourd'hui les dettes. Montfaucon représente par ailleurs 50% de la population du cercle scolaire. L'ancien maire milite ainsi pour la fermeture d'une classe au Bémont ou aux Enfers qui n'ont pas de halle. Le maire de Montfaucon, Vincent Hénin, explique pour sa part que fermer une classe ailleurs que dans son village, pourrait mettre en péril l'organisation créée en 2018 avec les autres communes du cercle. Nous avons donc ratifié la décision de la direction et de la commission d'école, dit Vincent Hénin. Les débats risquent d'être animés lundi soir à l'Assemblée communale de Montfaucon. Reste que la marge de manœuvre est pour ainsi dire inexistante. L'ordre du jour fait état d'une information et lors d'une information, il n'y a pas de prise de décision du corps électoral.
Merci Raphaël et vous retrouvez tout ce dossier sur notre site rfj.ch. Leur exploitation a été passée à la loupe. Les familles Broquet-Leuenberger de Mauvelier participent à un concours roman intitulé « La ferme la mieux tenue ». L'événement a été initié par les jeunes agriculteurs du canton de Vaud. Des experts sont ainsi venus visiter ce matin l'exploitation agricole du Haut-Plateau. Jean-Leuenberger a vu passer le concours sur Facebook. Il nous explique pourquoi sa famille a décidé de se lancer dans l'aventure.
Montrer aux consommateurs les fermes, comment elles sont entretenues, comment on travaille avec le bétail, puis justement montrer comme quoi on est ouvert, que les consommateurs peuvent venir sur l'entreprise, voir comment on travaille, et ainsi trouver un lien de confiance entre consommateurs et producteurs.
Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez dû préparer certaines choses pour la venue des experts qui étaient donc chez vous ce matin?
Alors c'est vrai que on a préparé, on va dire, fait un peu les nettoyages de printemps, puis là on les a fait un peu plus vite pour justement cet événement-là.
Et qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils vous ont posé des questions particulières?
Moi, j'ai présenté l'exploitation, comment on fonctionnait. Ils contrôlent la propreté des animaux, comment ils sont détenus, les sorties, l'aération des étables, les couches profondes, voir s'il y a de la paille, si c'est vraiment bien propre, si elles sont secs, et puis la santé des animaux en général.
Un des propos recueillis par Alexandre Rosset. Au total, 13 exploitations agricoles participent au concours en Suisse romande. Les résultats devraient être connus dans le courant du mois de mars. Et un mois de février record d'un point de vue climatique en Suisse. Des températures records ont été constatées dans plusieurs régions, y compris dans certaines stations de mesure de l'arc jurassien. Il a fait 16,1 degrés à la Brévine et 19,6 degrés à Failly le 24 février. Le lendemain, il a fait 16,8 degrés à La Chaux-de-Fonds. Les régions du nord des Alpes, situées à plus de 1000 mètres d'altitude, ont vécu le quatrième mois de février le plus chaud depuis le début des mesures en 1864.
RFJ, il est 18h12.
Sport.
La neige italienne semble toujours parfaitement convenir à l'Aragout Berami. La Tessinoise a fait main basse sur la descente de Coupe du Monde de ski alpin de Val di Fassa aujourd'hui. Elle l'a emporté d'un cheveu, 2 centièmes devant l'Autrichienne Ramona Siebenhofer. La Suissoise Corinne Sutter a pris la 3e place à 26 centièmes. Triple médaillée au championnat du monde de Cortina d'Ampezzo ces dernières semaines, l'Aragout Berami fait une excellente opération au classement général. Mathieu Schaffner.
La nouvelle reine, c'est elle. L'Aragout Berami s'installe sur le trône au sommet du ski féminin. Cette victoire décrochée à Val di Fassa lui permet de dépasser la Slovaque Petra Vlova et de la précéder de 29 points. Pour la Tessinoise, c'est un retour tout en haut de l'affiche. Elle qui a remporté le classement général de la Coupe du Monde il y a 5 ans. Et elle devra rester sur son nuage pour empocher un deuxième gros globe de cristal. Il reste 10 courses au programme de l'hiver. 4 sont clairement à l'avantage de la Suissesse, spécialiste de la vitesse, avec 2 descentes et 2 Super G, mais 4 slaloms doivent permettre à la Slovaque, fine technicienne, de répliquer. Le géant devrait ainsi être le juge de paix de cette saison, avec encore 2 épreuves. La décision risque bien de tomber dans moins d'un mois dans les grisons. Ce sera lors des finales de Coupe du Monde à Lenzerheide.
El Aragout Berami peut creuser l'écart en tête du classement général dès ce week-end. Une 2e descente et un Super G sont encore au programme à Val di Fassa. Un club mythique sonnerait sur la route de Young Boys. L'équipe bernoise de football se frottera à l'Ajax Amsterdam en 8e de finale de la Ligue Europa. IB se déplacera aux Pays-Bas le 11 mars avant le retour une semaine plus tard de la capitale. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Il a réservé un choc. Manchester United affrontera le Milan AC. Merci pour votre écoute. Belle soirée et bon week-end.
Les nuages en nette augmentation sur la région vont s'activer ce soir. Les averses annoncées par Météo News vont perdurer cette nuit. Demain, ces mêmes nuages seront présents. Dès le matin, ils se morcelleront sous l'effet de la bise. Avant la mi-journée, le soleil dès lors fera de belles percées. Il sera généreux l'après-midi. Les températures à l'aube seront entre 3 et 6 degrés. Les maximales flirteront avec les 10 degrés en pleine et 6 sur les hauteurs. Le ressenti cependant sera plus froid. En cause, la bise, toujours elle, qui ne faiblira que dimanche. Dimanche, qui dès la dissipation de brume matinale sera bien ensoleillé.